Voilà. On retrouve donc Maria Carmela Mini. Bonjour Maria Carmela.
Bonjour.
Donc un festival qui a débuté la semaine dernière avec donc, bien sûr comme chaque festival, une cérémonie de lancement, d'inauguration.
Tout à fait.
Et une belle soirée qui a suivi cette cérémonie officielle.
Absolument.
Et donc la musique qu'on entend par ailleurs, elle est aussi une des parties de ce festival puisque nous l'avons enregistrée lors d'une soirée qui a eu lieu dans un des lieux de ce festival, puisque le festival occupe plusieurs lieux, et d'ailleurs les lieux sont très sympas avec vous. Hein.
Tout à fait.
Et là, en l'occurrence, c'est à la gare Saint-Sauveur, où on a pu voir une soirée globalement musicale. Hein. Ces soirées sont dans ces musiques plutôt là-bas.
Tout à fait,
hein.
Oui.
D'accord,
oui.
Et pour finir la soirée tard le soir, des ambiances très sympas, avec un public voilà, de gens qui sont... En général, très, très cool.
Absolument, voilà. On essaye de faire un peu la fête.
Voilà.
Et donc, c'est vrai que je fais des choix assez particuliers pour la gare Saint-Sauveur, puisqu'on a. Déjà, c'est un lieu particulier où les gens aiment beaucoup passer du temps, être tranquille, entre amis, boire un verre, etc. Donc, ils ne sont pas venus spécifiquement voir des spectacles. Donc il faut essayer de combiner à la fois le côté. De la création et de la culture avec justement une ambiance plus détendue. Donc oui, en effet, je fais assez attention à ce que je programme dans ce lieu et faire en sorte que on lit l'utile à l'agréable. Et en effet, les deux soirs, on était à la Maison Folie, à la gare Saint-Sauveur. Ça s'est terminé par des fêtes.
Alors, c'est vrai que parfois, on a un spectacle dans un lieu, un autre dans un autre, et on court donc à la gare Saint-Sauveur après quelque chose qu'on a vu auparavant.
Tout à fait, oui.
Donc, il y a une circulation dans la ville, voire dans d'autres lieux, puisqu'il y a
absolument.
Roubaix aussi.
Qui est... Oui, tout à fait. J'essaie en fait de faire en sorte quand même que
et
les gens ne courent pas trop.
Voilà, Valenciennes, Armentières, là c'est...
Oui, Courtrai.
Et Arras un peu.
Et Arras,
ouais,
tout
d'accord.
À fait.
Voilà, donc un festival qui a trouvé ses marques territoriales, hein, et puis aussi bien sûr son esthétique, son propos. Alors, au niveau du propos, ce que j'ai pu voir, alors il y avait des choses un peu ludiques, mais il y avait des choses très puissantes, très engagées aussi.
Tout à fait, oui, c'est un peu le mix hein, de ce festival, c'est-à-dire que depuis le début, hein, depuis 2003, la programmation elle est également sur des engagements politiques avec des artistes qui ont un avis en tous les cas sur les questions sociétales, les questions politiques et qui sont en effet engagés. Et donc ça ne veut pas dire que quand on est engagé, on n'est pas drôle et on n'a pas d'humour.
Donc, ou on n'a pas de talent artistique.
C'est sûr.
Ouais. Voilà, donc on a remarqué dès le début Esther Salomon, par exemple.
Tout à fait.
Avec son propos autour d'un traumatisme du siècle dernier.
Tout à fait. Donc elle met sur scène toutes les tragédies qu'il y a eu dans le siècle dernier, les conflits. Et c'est vrai que les interprètes qui étaient sur le plateau étaient juste sublimes. Une performance, parce qu'ils dansent comme des... avec une énergie incroyable pendant quasi une heure et demie, donc il faut tenir la route. Il faut être en forme. Et puis, donc il y a ce côté un peu... avec une excellence et une endurance technique, une technicité incroyable de la part des interprètes et en même temps avec en sous-texte un engagement politique puisque au fur et à mesure du spectacle on comprend bien de quoi il est question et en fait elle nous fait un tableau des conflits qu'il y a eu dans le monde au XXe siècle et à la fin, quasi fin du spectacle il y a toutes les dates avec tous les conflits.
C'est énorme, hein, c'est impressionnant.
Oui.
Et d'autres ne sont pas terminés. Donc il y a le début, il y a tiré et on n'a pas la date de fin.
Absolument. Hein,
c'est ça, et il y en a beaucoup
dans
le monde. Nous, on a l'impression ici en France, à Lille, que tout va bien. Mais quand on voit ça, c'est impressionnant.
Oui, parce qu'en plus, bon, même si on s'y intéresse, on a les retours à travers les médias de quelques conflits importants sur la planète. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense et en effet des conflits qui dure maintenant depuis plus de 50 ans. Donc, ça, c'est impressionnant. Oui.
Alors, à propos du Rwanda,
oui.
On peut rappeler ces moments forts
Tout à fait, oui, parce qu'avec ce spectacle de Dorothée Meninosa, donc samedi détente, magnifique spectacle avec deux interprètes, un musicien sur scène complètement hallucinant, là aussi, et en même temps, enfin, je pense que les 10 secondes de silence à la fin du spectacle étaient nécessaires pour chacun, parce que c'est vrai que pendant une heure, on entend ce récit de la part de Dorothée qui est sur scène, qui est une des interprètes qui a vécu le génocide du Rwanda, et on sent bien que quand elle raconte, c'est du vécu, c'est pas un récit, et qu'elle porte cette douleur, cette réalité dans son corps et dans sa voix, et ça s'entend. Donc c'est sûr que après 1h10 de ce récit, on est un peu estomaqué, surtout qu'elle termine en nous posant la question: et vous, qu'est-ce que vous faisiez en avril 93? Et en effet, on peut se poser la question.
Voilà, alors, c'est d'ailleurs une question que je me suis posée et je m'en suis souvenu. 93, 94. Que faisions-nous à Radio Campus? Eh bien, nous essayions de témoigner à la lueur de ce que nous avions comme document journalistique de l'époque sur cette situation au Rwanda. Et à l'époque, il y avait un journal que nous avions c'est-à-dire qui était mis à disposition de tous nos membres adhérents et des visiteurs, qui s'appelait Maintenant. Et ce journal Maintenant décrivait de façon très précise cette histoire du Rwanda, cette histoire qui était à l'époque une réalité, avec les responsabilités clairement définies de chaque personne, etc. Et à l'époque, je me souviens d'avoir montré ça à des militants politiques qui refusaient absolument de lire ça. Donc, bien que sûr. Faisions-nous? J'imagine que en d'autres temps, la collaboration, ça prenait un petit peu cette dimension-là. C'est-à-dire que les mécanismes de la collaboration sont finalement encore en place pour que sur des grands drames comme ça, qui peuvent éventuellement porter ombrage à ceci ou cela, naturellement, l'individu d'une société a tendance à protéger plus sa société que de traiter les problèmes qui se passent ailleurs. Voilà. Donc moi, j'ai retrouvé là récemment des nouvelles de Maintenant, puisqu'il va ressortir s'il trouve les moyens d'exister. Et donc il y a toute une communication qu'on peut avoir sur ce journal qui voudrait, avec le crowdfunding, renaître, non pas de ses cendres, mais pour repositionner sur les problèmes actuels un regard qui n'est pas celui du monde de la presse habituel. Voilà. Donc, je voulais dire que non seulement Radio Campus n'a pas failli à sa tâche et à ses missions, mais que maintenant encore, c'est quelque chose qu'il nous faut essayer de faire connaître. Et je pense que le problème des médias, c'est que plus ils sont importants en taille, c'est un peu comme en Chine ou en Russie, plus on essaye de les freiner dans leur ascension ou d'empêcher qu'ils puissent arriver à ce niveau-là. Et donc voilà. Donc tant qu'on est petit, on ne dérange personne. C'est comme Google en Russie, là. Le gouvernement russe a demandé à Google si, dans le cadre, il pouvait faire remonter tous les sites web et les blogs qui dépassaient 100 000 personnes, par exemple. Donc, il faut les signaler, les dénoncer, en quelque sorte. Ce qui est fait en Chine également, d'ailleurs. Donc, voilà, c'est pour ça que tant qu'on peut s'exprimer, faisons-le savoir. Et puis, il faut beaucoup aussi puissent s'emparer des outils qui restent encore un peu à notre disposition dans ces pays qu'on dit démocratiques.
Tout à fait.
Bon, voilà, donc que faisions-nous? On essaie de le faire encore, mais ce n'est pas facile. Et je pense qu'on peut dire que depuis 94, on va dire, la situation de la presse en France a diminué. J'ai regardé des statistiques justement sur la liberté de la presse dans le monde. On doit être à la 35e place en France. C'est pas glorieux pour les pays des droits de l'homme, d'accord. Et il y a 14 ans, ou enfin au moment du Rwanda, on devait être à la 17e place.
Ah oui, on n'a pas progressé.
Ben, c'est bien ce que je pense. Hein. Oui, donc, oui. Mais tout le monde s'en fout, c'est ça qui est bien.
Oui.
Ou presque.
Jusqu'à quand?
Ben jusqu'à temps qu'il soit trop tard.
Ah, c'est ça.
Bon, mais on n'était pas là pour ça. Donc, mais néanmoins, c'est vrai que les problèmes soulevés par ce festival, pour moi, ils sont ils sont des moments de réflexion collective, puisqu'il y a, il y a des gens qui se rassemblent autour de spectacles, et forcément, c'est pas comme quand on voit un spectacle à la télé ou un film, on est à plusieurs autour à pouvoir en discuter, et il y a des moments de remédiation dont on peut parler.
Tout à fait, oui, et c'est pour ces raisons-là hein, qu'on organise ces instants critiques avec les artistes et puis le public, parce que c'est d'autant plus nécessaire que l'identité du festival, c'est vraiment aussi de se positionner sur des questions sociétales importantes et de coller à ce qui est contemporain et à notre quotidien avec toutes ces problématiques hein, et toutes ces questions. Et en effet, j'ai une réputation de poil à gratter, donc je vais pas la changer, ça fait 30 ans. Donc, et tant que je suis encore poil à gratter, tout va bien. Mais justement parce que j'ai une sorte d'angoisse, hein, même personnellement, hein, de m'auto-censurer en permanence, et ça c'est la plus grande des censures, c'est celle qu'on s'inflige et qu'on s'impose, et donc ça veut dire qu'en effet je vais toujours faire un pas de côté, je vais toujours être dans le politiquement incorrect. Donc et d'où la nécessité en effet de débattre, parce que je peux tout à fait concevoir qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord avec certains spectacles, certaines positions d'artistes, etc. Donc voilà, et la démocratie, c'est aussi celle de pouvoir débattre. Donc voilà.
Donc là, depuis vendredi, hein, c'était les premiers spectacles. Hein, j'ai vu plusieurs spectacles. Ceux que j'ai vus, je les ai trouvés peut-être plus faciles d'accès, même s'ils étaient parfois plus durs au niveau du contenu et du message, au niveau de la forme artistique. Mm-hmm. Est-ce que les temps changent un peu par rapport aussi aux esthétiques à présenter ou présentes sur dans l'environnement des spectacles?
Je pense aussi que c'est parce qu'il y a plus de textes, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc évidemment, la narration aide à la compréhension. Elle ne passe plus que par le geste, donc ça aide le public. Et c'est intéressant, en tous les cas, que à la fois les artistes qui m'intéressent vont de plus en plus s'approprier le texte ou la narration, et c'est aussi un petit peu, j'ai envie de dire, l'identité du festival qui est en train de bouger un tout petit peu. Mais à cause des artistes, j'ai envie de dire, mais à cause dans le bon sens du terme, parce que eux-mêmes sont en train de bouger. Donc voilà, en tous les cas, les spectacles qui m'intéressent aujourd'hui, de par leur engagement, de par ce qu'ils veulent transmettre au public, c'est en effet des spectacles qui, dans lesquels il y a beaucoup plus de textes. Et donc là, je suis déjà en train de programmer la programmation de 2016, et je peux vous dire que ça va s'accentuer, c'est-à-dire qu'il y aura encore plus de textes. Et donc je me dis, tiens, je suis en train de passer d'un festival des performances, peut-être un festival de théâtre, mais c'est même pas du théâtre en fait. C'est voilà, les artistes ont envie de parler, donc on les laisse parler.
Alors, il y a par contre eu un spectacle où là on ne parlait pas beaucoup et qui était un peu en décalage, mais que le public a beaucoup apprécié. C'est un spectacle belge.
Ah oui, celui qui a remplacé au pied levé Midvarlop, avec Frank and Robert et Robert and Frank. Donc rien que le titre de la compagnie parle bien de ce qu'ils sont. Et c'est vrai que c'est un spectacle très très drôle. Donc là, en effet, c'est plus des artistes qui sont orientés vers les arts plastiques. Et donc cet univers, presque un paysage hein, qui se développe devant nous avec des actions, donc avec presque rien. Ils prennent une feuille de papier et ils nous changent l'univers totalement. Et ça, c'était très drôle, oui, en effet. J'étais très contente parce que de présenter, c'est très très artistes hein, et qui sortent vraiment de l'école, et donc ils ont commencé à travailler ensemble il y a 10 ans maintenant, mais à l'école, donc et ils ont une telle complicité sur scène, et telle convergence de rapports et sur, enfin, ils ont une complicité incroyable qui amène au décalage. Ils sont, enfin, vraiment, ça donne des images, des situations drôles.
Pour donner une idée au public, ils amènent énormément d'objets sur scène, donc ce sont des manipulateurs et ils mettent en vie des objets qui se succèdent. On est toujours étonné parce qu'on ne sait jamais après ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont encore ramener, comment ils vont installer des choses parfois un peu bizarres. Et c'est, j'ai déjà vu des spectacles belges un peu comme ça, on va dire, décalés. Hein. Celui-là en fait partie, hein. Il y a courant. Voilà. Bon, et je pense que c'est, ça donne un peu de fraîcheur aussi, parce qu'il y avait un côté écolo, il y avait le bois, les choses un peu marrantes. Et puis le débat qui a suivi, hein, donc
oui,
après,
oui, tout à fait.
Où ils expliquaient que beaucoup de ces objets-là avaient pour eux un sens émotionnel, ça venait de leur mère, de leur anniversaire, ou autre chose comme ça, du recyclage en même temps. Mais
tout à fait.
Voilà, donc c'était une pointe d'humour aussi dans ce festival.
Absolument.
Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour les prochains spectacles. Merci, Maria-Carmen Amini. Vous êtes sur Radio Campus 106,6 FM. Radio Campus est partenaire du festival Latitude Contemporaine depuis sa création. Ce festival vous invite cette année du 3 au 19 juin à rencontrer la nouvelle génération de la création contemporaine. Retrouvez la programmation du festival sur le site www.latitudecontemporaine.com et l'actualité et les comptes rendus des spectacles sur Radio Campus Lille 106,6 FM chaque mercredi à 16h30 du 3 au 24 juin. Voilà, Maria-Carmen Amini. Donc, on se retrouve pour Latitude Contemporaine Festival 2015 et donc annoncé quelques événements qui nous attendent encore, sachant que le festival se termine quand ?
Le 19 juin.
Voilà, donc c'est l'occasion de donner cette actualité qui attend le public. Et bien sûr, on parlera toutes les semaines encore, prochaines semaines, de ce qu'on a vu et des bilans, donc, et puis aussi de ce qu'il y a à voir. Alors, on va partir peut-être chronologiquement, mais ça va.
Allons-y. Donc ce soir déjà il y a deux spectacles, un dans un nouveau lieu que nous allons occuper qui s'appelle le Flow, donc qui est cette salle dédiée aux formes du street art ou hip-hop, etc.
Enfin, voilà, qui est à côté de la maison Folie Moulin, il faut le préciser.
Tout
d'ailleurs c'est le même directeur que la maison
Absolument.
Folie Oisem, Moulin et le Flow.
Tout à fait. Et donc c'est une soirée partagée donc avec le Flo et la maison Folie d'Oisem. On aura Vincent Glovinski et donc là comme tous les autres lieux, c'est-à-dire que je tiens compte de la spécificité du lieu, hein, et là les lieux sont plutôt consacrés à des formes de cultures urbaines ou, donc voilà, j'ai aussi voulu tout en gardant la ligne artistique de Latitude Contemporaine m'adresser à ce public-là. Et donc avec la compagnie Densité et le titre du spectacle Réversible de Bouziad Boudelja, pardon, et donc en fait Bouziad a souhaité faire un travail introspectif sur sur sa vie, sur son enfance, sur comment il a grandi, là où il a grandi, etc. Et les formes de violence aussi qu'il a pu rencontrer. Et quand c'est Olivier Sergent, donc le directeur du Flow, qui m'a proposé ce spectacle, il m'a dit, tu sais, Ouzienne va prendre un risque. Ce qu'il n'a jamais fait, c'est déjà parler de lui et puis de ce qu'il a vécu en tant que garçon, voulant être artiste, etc. Donc voilà, et ça serait bien que ça soit dans l'attitude, parce que artistiquement et personnellement, il prend un risque et je vois qu'avec toi, de la possibilité de programmer. Donc je trouvais ça plutôt bien parce que ça prouve qu'Olivier comprend très bien ce que je veux faire aussi avec l'attitude, c'est-à-dire, je ne sais pas si on peut dire faire un coming out de ce qu'on a vécu. Je ne parle pas d'homosexualité, hein. Je veux dire de... Voilà, on a tous une part d'ombre, hein, dans nos vies, enfin,
Ou de lumière, hein, ça dépend comment on le prend.
Oui, oui, mais des choses qu'on n'a pas envie de dire.
Ouais, cachées. Pour voilà, vivre heureux, ils vont cacher.
C'est ça, oui. Et en fait, y a des artistes qui ont besoin à un moment de dire cette part cachée d'eux-mêmes. Et c'est bien que les gens puissent le faire aux latitudes. Donc voilà, que Bouzienne puisse révéler cette part cachée de lui-même chez nous, ça me paraît vraiment bien. Avec une forme, donc, puisque Bouzienne est vraiment issu du hip-hop, hein, c'est vraiment son écriture chorégraphique. Donc je crois que c'est la première fois aux latitudes qu'on va voir un artiste hip-hop. Mais c'est bien. Enfin, je trouve que c'est bien qu'on s'ouvre aussi à ces formes-là. Et je me dis, pourquoi pas aller beaucoup plus loin, enfin, pour les années prochaines. Hein, parce que ça fait partie aussi des formes contemporaines de la danse ou des arts du spectacle. Donc, pourquoi me limiter à des formes plus, on va dire...
Convenu,
voilà. Merci. Donc, c'est une création en plus, donc j'avais pas vu de répétition, donc je vais découvrir ça avec le public. C'est pour ça que je peux très peu dire ce dont il va s'agir, sauf que Bouzienne va vraiment nous révéler des choses.
Donc, ça, c'est à 20h, et après, il faudra courir à la Maison Folie.
Absolument, pour y arriver à 21h30, pardon, oui, pour Vincent Glowinski. Donc, Vincent Glowinski, beaucoup de gens le connaissent plus par son pseudonyme qui est Bonhomme. Donc ce graffeur bruxellois très connu, donc c'est la même personne. Et donc Bonhomme, les gens le connaissent parce que donc il a fait d'énormes tags dans la rue à Bruxelles et qui maintenant sont achetés par des gros collectionneurs. Donc voilà. Et Vincent a voulu aller se confronter au plateau, ce qu'il n'avait jamais fait. Et donc, il s'est posé la question comment amener ma manière de travailler dans la rue sur scène. Et donc, il a travaillé avec des ingénieurs qui lui ont inventé une sorte de costume où il a des patchs. Et en fait, il fait du graphe, mais avec son corps. Et donc c'est projeté en direct sur un immense écran et donc il doit faire preuve d'une maîtrise totale de chaque geste de son corps, hein, de chaque muscle quasiment, parce que à chaque fois qu'il bouge même le petit doigt, ça se répercute en dessin sur l'écran. Mais il est extraordinaire parce que c'est une maîtrise de son corps et de lui-même et il dessine vraiment, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il va dessiner des choses qu'on peut devenir, enfin des animaux, des paysages, etc. Donc avec ça, une maîtrise extraordinaire.
Voilà. Sinon, demain, La Rose des Vents accueillera un spectacle de Jonathan Cabdeviel, demain à 19h et vendredi à 20h.
Absolument, oui. Et donc, Jonathan Cabdeviel nous présente un saga. Donc là aussi, il y a une sorte d'introspection. Donc c'est une sorte d'autobiographie fictionnelle qu'il a écrite à partir de son parcours. Pour ceux qui ont pu aller voir Ali Chasse au Vivat il y a quelques mois, on avait Jonathan Cabdeviel qui nous parlait de sa relation avec son père quand il lui annonçait son homosexualité, etc. Donc cette ambiance de boîte de nuit dans lesquelles il est passé, etc. Donc il nous racontait plutôt sa période plutôt de jeune adulte. Et après, et là, il nous fait revenir vraiment à son enfance. Et il a grandi dans une famille de gangsters, on pourrait dire, hein, et donc avec des trafics en tout genre. Donc, il nous raconte son enfance au milieu de cette famille incroyable qu'on pourrait voir dans les films de Martin Scorsese. Et en même temps, quand on le voit aujourd'hui sur scène, on se dit mais comment il a fait pour passer de cet univers complètement glauque et de brigand à l'artiste de génie qu'il est aujourd'hui sur scène.
Bon, quoi. On peut s'en sortir.
Absolument.
Lueur d'espoir.
C'est bon signe.
Voilà. Alors après, donc il y aura un sacre du printemps. Alors un sacre parce qu'il y en a eu tellement que là, c'en est un autre.
Absolument.
Et un autre peut-être très différent d'ailleurs.
Oui, tout à fait, de Daniel Inehan. Donc, peut presque ne plus présenter Daniel Nilon.
Si, quand même, si, on va le faire.
Donc, c'est un artiste donc, qui est présent maintenant depuis une dizaine d'années, hein, puisque j'avais la région. J'avais présenté son premier spectacle, il me semble, il y a 97, quelque chose comme ça. Et donc depuis, il est arrivé comme artiste.
Il est en résidence à l'Opéra.
Oui, il est artiste associé donc en résidence à l'Opéra de Lille maintenant depuis 3 ans. Et donc voilà, il avait envie de se consacrer à ce sacre. Donc il a invité les danseurs de Partes. Donc les Partes étant l'école de formation de Anne-Thérèse Kessmaker à Bruxelles, dont il lui-même est issu. Et donc il a invité plusieurs danseurs. Ils sont une quinzaine sur le plateau. Donc c'est un gros groupe.
L'Opéra, c'est bien.
Et en plus, quand on est sur le plateau, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a plusieurs représentations, enfin qu'il y en a autant, puisque je crois qu'on est 250 maximum sur le plateau.
D'accord. Donc je vais dire tout de suite les jours pour qu'on puisse s'inscrire, puisqu'il y a peu de place. Jeudi 11, donc c'est à 20h, ainsi que le vendredi 12. Le vendredi 12, c'est fait. Oui. Le samedi 13, c'est deux horaires, 16h et 20h, bien sûr, à l'Opéra de Lille.
Tout à fait. Et je sais, donc, pour les seuls qui veulent encore avoir des places, il reste encore des places uniquement le samedi à 16h.
Bon, voilà, donc samedi à 16h. Très bien. Ensuite, eh bien, on retrouvera quelqu'un qui est issu du parcours frénois, etc. C'est Mylène Benoît qui présente chaque année, on va dire, une création.
Oui,
plus.
Tout à fait.
Ouais. Mm-hmm. Donc cette année, ce sera Notre Danse. Oui. Alors pourquoi Notre ?
Parce qu'en fait, Mylène a voulu travailler sur sur qu'est-ce que, enfin, la chercher à comprendre, à savoir, à comprendre qu'est-ce que c'est notre danse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va laisser en héritage comme folklore chorégraphique en 2015, pardon. Et qu'est-ce que, voilà, c'est quoi dans 50 ans, s'il y a un folklore de la danse d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être?
Alors c'est vrai qu'il y a eu toute période où on pouvait dire danse moderne qui maintenant correspond à une époque, on va
absolument,
dire,
hein,
comme la peinture moderne, enfin voilà.
Absolument, oui.
Et après il y a eu ce qu'on appelle l'art contemporain, on retrouve la danse contemporaine.
Absolument.
L'attitude un peu dans la filiation.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui va se passer dans les futures décennies? On ne sait pas.
On ne sait
c'est
pas.
Ça l'intérêt d'ailleurs. Ça nous permet de patienter. On dit, bon, on verra, il y aura encore des choses à découvrir.
Tout à fait. Il faut laisser un peu de travail aux historiens quand même.
Voilà. Et puis, aux jeunes générations, dont ça va être maintenant la mission de nous accompagner dans toutes leurs idées, leur parcours. Voilà, Notre Danse de Mylène Benoît. Donc, c'est au Vivat à Armentières, mardi 16 juin à 20h. Et pour le reste des spectacles, la suite, bien, on se revoit mercredi prochain.
Avec plaisir.
Eh ben, magnifique, merci. Et on donne rendez-vous, bien sûr, sur le site pour en savoir plus et pour les réservations. Le site du Festival d'Attitude Contemporaine. N'hésitez pas à y faire un petit tour, voir aussi des informations complémentaires. Et voilà. Et puis, si vous cherchez aussi quelques petites photos, etc., que j'ai prises de fin de spectacle, ou de certains moments où on m'a laissé un peu la possibilité de le faire, eh bien c'est sur, vous tapez sur Google Onde de Chine, Latitude Contemporaine, et vous allez y arriver. Voilà. Et je vous souhaite une excellente soirée, et puis on se retrouve, Maria-Carmela, ce soir, quant à nous.
Absolument.
Merci.
Merci.